Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus ce soir à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations dans le cadre du cycle de conférences d'autres regards sur le monde qui vous invite à découvrir la richesse des collections de la bibliothèque sur les langues et civilisations des aires culturelles de l'Europe balkanique, centrale et orientale, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et des civilisations amérindiennes. Tout au long de ces rendez-vous, bibliothécaires et chercheurs vous font découvrir l'intérêt de ces collections en langue originale qui proposent d'autres regards sur le monde passé et présent. Mais aujourd'hui, c'est à une séance un petit peu différente que nous vous invitons. Nous vous proposons en effet un autre regard sur la bibliothèque et sur le monde, celui de Claire Ferchak, écrivain, qui a été accueillie par la BULAC avec le soutien de la région Île-de-France pour une résidence d'écriture en 2012 dans le cadre du programme régional de résidence en Île-de-France. Avec nous ce soir, donc Claire Ferchak, bien sûr, et de l'équipe de la BULAC, à ma gauche Clotilde Montero, chargée de communication externe, Monica Merlin, responsable des fonds polonais, slovaque, sorabe et tchèque, et Adonis Medizoun, qui était contractuel étudiant à la bibliothèque en 2012, Monica et Adonis ayant assisté aux ateliers d'écriture que faisait Claire pendant sa résidence. Nous allons revenir sur tous les aspects de ce travail à la résidence et parler bien sûr du roman qui nous réunit ce soir, Histoire naturelle de l'oubli, publié aux éditions Verticales en janvier dernier. Claire et Ismaël Jude, nous lirons quelques extraits de l'ouvrage et Claire répondra à toutes les questions que vous serez posées durant cet exposé et à la lecture de ces extraits, de même qu'aux questions des exposés de nos collègues, si vous en avez. Alors, Claire, je vais vous présenter rapidement pour dire que vous avez donc travaillé sur Francis Bacon et Samuel Beckett dans le cadre d'un mémoire de recherche en philosophie de l'art. Vous avez collaboré à différentes revues, le magazine des livres, le journal de la culture, Cassandre, etc. Vous avez fait des reportages pour France 5. Vous avez publié un premier roman, Rideau de verre, en 2007 aux éditions Verticales. Vous avez en 2008 publié une fiction Tarantula Box 7 sur le groupe de rock The Smashing Pumpkins aux éditions marseillaises Le Mot et le Reste. Champ magnétique, votre livre coécrit avec Billy Corgan, compositeur, musicien et chanteur américain, a lui été publié aux éditions Léo Cher en 2010. Et vous avez également écrit pour la jeunesse un roman Louga et la maison imaginaire aux éditions de l'École des loisirs, qui est une adaptation du conte noir de la poupée, une fiction radiophonique écrite pour France Culture. Et vous avez écrit la suite des aventures de Louga de l'autre côté du monde, également à l'École des loisirs. Vous avez également participé à l'écriture d'ouvrages collectifs, écrivains en série, Babel, Plaisir de myope. Et de mars à octobre 2012, vous étiez donc en résidence ici à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Vous avez organisé des rencontres, des lectures, des mises en espace de texte et animé des ateliers donc d'écriture, tout en travaillant à l'écriture de votre sixième livre, qui est aussi donc votre deuxième roman plus personnel, on peut dire. Et donc, à la suite de cette résidence, la bibliothèque a commandé un web documentaire qui a été réalisé par Julie Meyer et Cyril Bitton de la société Appetite Conseil et Production, que je vous invite à regarder sur le site internet de la bibliothèque. Alors, dans ce web documentaire, Claire, vous dites que vous avez commencé à travailler en bibliothèque dans le cadre de vos études, donc je parlais de votre mémoire tout à l'heure, et vous aviez alors, je cite, la phobie des bibliothèques, vécu au quotidien comme un lieu d'angoisse terrible, mais finalement, à la fin, assez fascinant. Alors, pourquoi avoir finalement choisi une bibliothèque pour lieu de résidence d'écriture ?
Parce que je voulais que la bibliothèque soit un lieu principal dans mon livre. Pour ce livre-là, je suis vraiment partie des lieux. Après, ça s'est vraiment construit petit à petit. C'est-à-dire, j'ai eu une idée au départ, des images, et puis à force de mettre tout ça ensemble, de ciseler cela, je savais que, par exemple, le personnage masculin du livre, qui est soigneur dans une ménagerie, à un moment ou un autre, aurait à aller en bibliothèque pour faire des recherches et travailler sur sa métamorphose. Donc, je savais pas encore exactement quelle place prendrait quelle place prendrait la bibliothèque dans le livre. C'est vraiment venu petit à petit, et donc j'ai commencé à passer du temps en bibliothèque, à discuter avec Mélanie Le Torec, qui s'occupait de la mission action culturelle de la Bulac à l'époque. Je lui ai expliqué mon projet et je lui disais que j'avais très envie d'observer le travail des bibliothécaires, l'ambiance de la bibliothèque, le but étant dans ce livre de mettre les personnages dans leur environnement professionnel, et que ce soit des personnages qui aient une relation à leur travail qui leur donne envie d'observer tout ce qui se passe autour d'eux.
Alors, donc, vous avez, avec Mélanie Le Torec, monté ce dossier pour une résidence au moment où la Bulac était encore en cours de construction.
Oui, je l'ai vu en travaux.
Voilà, vous avez vu la bibliothèque en train de se construire et vous êtes arrivé 2 mois après son ouverture. Donc, vous avez été une de nos premières lectrices, quelque part. Est-ce que l'espace, le lectorat correspondait à vos attentes et à ce que vous aviez imaginé ?
J'avais aucune attente particulière, ni par rapport à la bibliothèque, ni par rapport à mon livre, puisque c'était vraiment le début et les choses n'étaient pas encore tout à fait définies. Simplement, comme j'allais être en résidence et que j'allais organiser, c'était quand même le principe de la résidence, organiser des événements à la bibliothèque. Je trouvais que le lieu était assez formidable pour ça, puisqu'on pouvait utiliser le foyer, les salles de lecture, l'auditorium, des salles qui se trouvent dans les salles de lecture, mais qui sont des salles à part dans lesquelles on pouvait faire les ateliers d'écriture. Donc il y avait vraiment plein de lieux différents à observer, à utiliser. La bibliothèque elle-même, il y a plusieurs étages, il y a vraiment des endroits très différents pour travailler. C'était pas encore mis en place à l'époque, mais ça allait se faire. C'est l'ouverture des carrels qui font que si on veut venir travailler toute la nuit tout seul avec sa carte de bibliothèque, on peut le faire. Donc tout ça, je trouvais que c'était l'endroit était vraiment parfait et réunissait toutes les conditions pour ma résidence, mais j'avais aucune attente particulière.
Alors justement, à propos de ces rencontres et de ces ateliers, je vous propose de passer la parole à nos collègues qui vont en fait vous parler un petit peu de leur impression et du travail, de ce que leur a apporté la présence de Claire en résidence dans la bibliothèque, en commençant par Clotilde, qui va nous parler des rencontres.
Bonsoir. Oui, alors moi, je voulais, pour commencer, revenir sur les rencontres que Claire avait proposé, organisé dans le cadre de la carte blanche qu'on lui avait proposée pour cette année de résidence. Et je voulais, pour commencer, revenir sur cette expérience singulière qui a été celle d'accueillir une écrivaine dans les murs de la bibliothèque pendant presque une année. Après avoir été informée de son arrivée, on a fait connaissance avec Claire lors d'un petit déjeuner. Et puis, petit à petit, on s'est familiarisé avec sa silhouette, à la chevelure noire de jais qu'on croisait certains jours dans les bureaux ou la salle de lecture. Alors moi, je me demandais quand je la voyais...
J'étais discrète quand même.
On te repérait quand même. Quand je la voyais regarder, observer, évoluer dans les espaces de la bibliothèque, ce qu'elle allait choisir de retenir de tout ça, je me demandais si elle porterait un regard sévère ou bienveillant sur nos travers, nos habitudes, nos façons de parler aux lecteurs, si elle irait jusqu'à nous caricaturer. J'ai retrouvé dans son roman « Histoire naturelle de l'oubli » des scènes qui se sont réellement passées. Claire avait demandé à quelques-uns d'entre nous de lui livrer des anecdotes survenues lors de notre service public. Alors, je ne sais pas si Claire était vraiment présente à ces moments-là. En tout cas, à la lecture de ces scènes, j'ai été frappée par leur précision et leur justesse. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, puisque voilà, Claire aura l'occasion d'en reparler avec Joël tout à l'heure. Voilà, donc pour cette carte blanche, Claire nous avait proposé 4 rendez-vous. Donc le premier consistait en 2 tables rondes successives sur les coulisses de la rentrée littéraire. Donc la première table ronde officiait 3 journalistes, 3 critiques littéraires. Elle était animée par Séverine Delrieux. Et on avait Mohamed Aïssaoui du Figaro, Hubert Artus de France Inter et de Lire, et Elisabeth Philippe des Inroc. Voilà. Et pour la table ronde des libraires, on avait Jérôme Dair de la librairie À tout livre, Nathalie Lacroix du Comptoir des mots et Damien Besançon de la librairie Le Salon Baïté des Écrivains. Voilà, les intervenants ont tenté de lever le voile sur ce phénomène de la rentrée littéraire qui est un phénomène exclusivement français. Ils nous l'ont nous l'ont bien rappelé. Alors, j'ai trouvé vraiment intéressant de découvrir que les critiques et les libraires avaient des points de vue bien distincts, voire opposés, sur l'intérêt de cette période particulière de la vie littéraire française. Alors, au fil de ces deux tables rondes successives, on est passé de l'enthousiasme des journalistes à des propos très critiques de la part des libraires. Les journalistes ont expliqué comment la préparation de la rentrée littéraire était pour eux une période d'excitation, de découverte, durant laquelle ils pouvaient lire jusqu'à un livre par jour, alors que les libraires ont commencé par parler de leur réalité quotidienne, de leurs difficultés économiques face à Internet et à Amazon notamment, et comment ils essayaient de résister à cette concurrence féroce. Voilà, après avoir rappelé que cette année-là, 646 romans français et étrangers venaient d'être publiés. Voilà, des chiffres qui donnent le tournis. Alors, les libraires ont souligné l'absurdité de la course à la production des éditeurs, destinée à décrocher peut-être le gros lot, un prix littéraire, voire plus le Goncourt. Les libraires ont aussi mis l'accent sur cette surproduction qui impliquait pour eux de rendre la mort dans l'âme aux éditeurs au début de l'été, des livres sortis peu de temps auparavant pour faire place à l'avalanche de livres de la rentrée, en signalant que ces retours étaient pour beaucoup pilonnés. Ils ont contesté la dictature de la nouveauté en rappelant que la nouveauté, c'est les livres qu'on n'a pas lus, alors que les critiques regrettaient au contraire qu'un des effets néfastes de la crise était cette année-là le nombre de premiers romans qui avait été presque divisé par deux, 61 livres publiés, 61 premiers romans, alors que les années précédentes, voilà, il y en avait deux fois plus. Voilà, parce que les critiques jugeaient important pour eux de contribuer à faire connaître tous ces nouveaux auteurs en herbe. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cette première rencontre.
Ce que je remarque, c'est que les trois libraires que j'ai invités ne sont plus libraires aujourd'hui.
C'est vrai? Ah, c'est un scoop. Non, je sais pas.
Bah, Jérôme Dher a quitté à tout livre, mais il a fondé le site internet la librairie.com.
D'accord.
Alors, c'est pas du tout comme Amazon, c'est-à-dire que vous pouvez commander le livre par Internet, mais il faut aller le chercher dans une librairie de quartier,
ouais.
Donc pour essayer justement d'aider la librairie. Nathalie Lacroix a quitté le comptoir des mots. Elle reste dans le domaine de l'édition et de la promotion d'ouvrages. Elle organise des rencontres, des conférences, mais elle n'est plus libraire. Et Damien Besançon n'est plus à la librairie. Le thé des écrivains, il est parti vivre en Italie une année, puis depuis son retour, il n'a pas repris son métier de libraire, mais ce sont toujours des gens qui passent leur temps à lire et qui aiment toujours autant les livres. Mais ils ont changé de métier.
À croire que les réalités économiques ont eu raison de leur motivation. Voilà. Et alors ensuite, le deuxième rendez-vous, c'était une table ronde sur le thème du premier roman. Et alors, autour de toi, il y avait Claire Moiron, qui venait de publier « Rien de mon visage » chez Léo Cher. Et puis, il y avait Arnaud Catherine pour parler des yeux secs, son premier roman, qui avait été publié quelques années auparavant chez Vertical. Voilà, ton éditeur
c'est
également.
C'est le premier livre de Vertical.
Voilà, le premier roman ou le premier livre ?
Le premier livre.
Le premier livre, ouais. Voilà, je ne dis plus ça, très sûr. Alors moi, j'ai trouvé que cette rencontre avait une couleur très intimiste. Il y avait une qualité d'écoute rare entre vous, les intervenants, et puis de la part du public. J'ai trouvé aussi que cette table ronde était un très bel hommage fait par des auteurs à leurs éditeurs. Et c'était aussi émouvant de voir apparaître en filigrane la belle figure d'éditeur qui était celle de Bernard Wallet, le fondateur des éditions Verticales. Vous nous avez confié, toi et Arnaud Catherine, au cours de cette rencontre, que votre premier roman était le tout premier texte que vous aviez aussi réussi à terminer. Et qu'aucun de vous deux n'avait imaginé qu'il serait publié dans la foulée. Quant à Claire Moiron, on a pu découvrir que sa démarche était tout autre, puisqu'elle avait fait le choix d'un procédé d'écriture originale en faisant relire son texte à chaque étape successive par un collectif qui lui prodiguait ses conseils. Voilà, et alors je retiens la question du public, vous documentez-vous pour écrire ? J'ai retenu la réponse d'Arnaud Catherine qui considère que se documenter, ça contredit le désir. Pour lui, la place de l'écrivain, c'est d'abord et avant tout se mettre à la place de l'autre. Et vous étiez d'accord tous les deux pour dire que vous suiviez plutôt votre intuition que votre imagination quand vous écrivez. Voilà, et à propos du retravail avec votre éditeur, Arnaud disait qu'il était friand de ce retravail, je le cite, « pour traquer les angles morts, pour aller au-delà de la cécité qui est devenue la mienne au bout du chemin lorsque le texte est terminé ». Et de ton côté, tu disais, en parlant de tes éditeurs, ils ont le talent de voir ce qui manque ou ce qui ne va pas dans la structure. Et je retiens aussi ce propos de Claire Moiron, qui venait tout juste de publier son premier roman au moment de la rencontre. Elle disait « La seule chose qui change après avoir publié mon premier roman, c'est que le livre existe et que donc je peux m'en échapper ». Quant à Yves Pagès, donc éditeur voilà, de Claire et d'Arnaud Catherine, qui était présent, il avait insisté sur la singularité des premiers romans publiés chez Vertical, avec cette belle phrase « Tous les premiers romans de notre catalogue sont des singularités, des textes qui partent chacun d'un point opposé de la cartographie littéraire ». Et il a évoqué la très forte émotion que représentait à chaque fois pour lui le fait d'être le premier lecteur d'un texte, car il disait mesurer le degré de solitude dans lequel l'auteur l'a écrit. Et puis il avait aussi confessé, nous aussi les éditeurs, passons un examen devant les auteurs, en disant l'enjeu c'est la compréhension mutuelle du texte, au point de remarquer une phrase de trop dans un paragraphe, un point virgule inutile ou mal placé. Voilà. Et puis, il y a eu aussi cette question du public. Est-ce que vous avez ressenti une angoisse lorsqu'il a fallu vous mettre à votre deuxième roman ? Alors, Claire, j'ai bien aimé ta réponse parce qu'à cette époque, tu étais en plein... Et tu as dit « Je suis attelée à mon deuxième roman, j'ai l'impression. C'est exaltant et excitant, mais c'est rude. Je me retrouve seule de nouveau. » Voilà. Donc, tu nous diras tout à l'heure si ça a été si rude que tu le... disait à cette époque-là. Oh,
pire, je plaisante. Mais en revanche, je me suis beaucoup documentée, donc je reviendrai sur ce qu'on avait dit il y a 2 ans.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Voilà, donc je ne vais pas après entrer dans les détails des 2 autres rencontres que Claire avait proposées, sur lesquelles il sera un peu difficile de gloser, puisque c'était... C'était l'abécédaire de Mathias Sénard. Donc voilà, moi, je vous engage à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, puisque voilà, au fil des lettres de l'alphabet, Mathias nous parle de ses engouements pour la littérature et de son écriture, et on pourrait l'écouter des heures. Et puis, je vous engage aussi à aller voir et écouter la très belle lecture mise en espace par Ismaël Jude de Rideau de verre, le premier roman de Claire, avec un dispositif scénique tout à fait original et la très talentueuse Céline Mia Baumgartner.
Qui voilà. A publié son premier roman la semaine dernière.
D'accord. C'est contagieux.
Oui, c'est ça.
Alors, des rencontres, mais aussi des ateliers. Alors, Claire, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez conçu ces ateliers ? Et ensuite, on va passer la parole à deux élèves de vos ateliers qui faisaient aussi partie du personnel, puisque ces ateliers étaient destinés à tous, lecteurs, bibliothécaires.
Il y a une personne dans le public qui participait aux ateliers aussi.
Voilà. Okay.
C'était vraiment des ateliers participatifs, c'est-à-dire que j'arrivais pas avec des thèmes définis et choisis dans mon coin pour les participants. La première fois, je leur ai juste demandé d'écrire un texte sur les raisons pour lesquelles ils étaient venus, sur ce qu'ils attendaient de l'atelier, ce qu'ils attendaient de l'écriture, les raisons pour lesquelles ils écrivaient. Et après, on a choisi ensemble, évidemment parmi des thèmes et des pistes que je leur donnais pour pas... même partir de zéro, on a choisi ensemble les thèmes sur lesquels on allait travailler à chaque atelier, et on a essayé de partir toujours d'une matière, d'une musique, d'une photo, en tout cas au départ, au moins pour les aider, parce que c'est pas si facile d'écrire justement dans une même salle avec des gens qu'on ne connaît pas. Le plus difficile, c'est même de lire le texte qu'on vient d'écrire à des gens qu'on ne connaît pas. Certains le faisaient sans problème, arrivaient même avec des textes qu'ils avaient écrits en dehors et les lisaient. Pour d'autres, c'était plus difficile. La particularité de ces ateliers, surtout, c'était que la plupart des participants n'avaient pas le français pour langue maternelle. Donc, ils avaient un rapport au français très différent et en même temps très fort, puisqu'ils essayaient d'écrire en français directement, avec une recherche, un amour du français presque... plus fort que les nôtres. Ils excellaient à écrire des histoires en français avec souvent très très peu de fautes. Donc ça, c'est quand même une particularité. Et surtout, ils avaient un imaginaire assez différent, souvent assez oriental, assez fantasmé, dans des écritures de textes qui auraient pu être, au contraire, très très proches d'une réalité un petit peu brute. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'ils en ont retenu.
Alors, Monica, par exemple, pourquoi ça t'inscrit à cet atelier et qu'est-ce qu'il t'a apporté ?
Bonsoir. Donc, j'écrivais depuis pas mal de temps déjà, même plus, depuis plusieurs années. Et cette possibilité, en fait, c'était une bonne occasion pour moi pour me confronter par rapport à une personne qui écrit déjà, qui est écrivain, et aussi à ma plume, vue par les autres. Parce que tout ce que j'ai écrit jusqu'à l'heure uniquement pour moi-même. Je garde d'ailleurs tout mes... J'écris c'est toujours clair, dans des petits cahiers et je les garde dans une immense boîte. Maintenant, j'en ai entamé une deuxième. Donc, ce sont les textes bruts qui attendent le jour X dont je vais parler à la fin. En fait, notre rencontre, c'était effectivement... Nous étions plusieurs. Nous étions des cultures très différentes. Et la chose qui était assez difficile comme exercice au début, c'est de dire qui on est. Bon, qui on est, ça allait encore, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit? Et qu'est-ce qu'on attend effectivement de cet atelier? Et bien évidemment, quand on ne connaît pas les personnes, c'est souvent... En fait, on était tous à écrire personnellement, ne pas être écrivain en soi-même. Donc, du coup, on était gênés par... Parce que, bon, quand on écrit, on se dévoile d'une certaine manière. Et c'est ça qui était un peu... la première fois, c'était un peu difficile. Ensuite, nous sommes devenus presque un groupe d'amis. Il y avait certaines affinités et beaucoup d'humour, si je peux dire. Et la chose qui était intéressante, c'est que chaque fois, il y avait un exercice. Donc, exercice... Soit on avait parfois les textes que nous avons écrits nous-mêmes, donc on les présentait aux autres. Ensuite, les collègues, les compères en parlaient, donc il y avait des critiques, il y avait des choses bien. Il y avait bien sûr certaines recherches de style qui étaient vues ou pas. Donc parfois, il fallait justement attendre les remarques de Claire, parce que Claire, elle a une approche beaucoup plus technique quelqu'un qui écrit juste comme ça, en fait. Donc c'était vraiment une aide précieuse de pouvoir être un peu plus précis dans sa plume. C'est-à-dire, je voudrais vous dire, par exemple, le moment où on écrit pour quelqu'un, en fait, il faut voir aussi le public pour qui on écrit. Donc, il faut être plus précis, adapter bien évidemment le vocabulaire au public et ne pas... C'est-à-dire, en fait, moi, je parle surtout pour le public, par exemple, enfantin, les enfants. Et le texte que j'avais écrit à l'époque, il était un peu trop sérieux, si je peux dire. Le vocabulaire n'était pas du tout adapté, même si j'avais des bonnes volontés, en fait, à transmettre quelque chose. Donc, c'était justement l'occasion d'apprendre qu'est-ce qu'il faut, en fait, voir, qu'est-ce qu'il faut prévoir qu'on écrit un texte. Ensuite, la chose qui était très intéressante, c'est que quand nous avons écouté les autres, on se découvrait d'une autre manière que par notre physique. Donc, c'était aussi une certaine manière de voir l'autre. Et la chose qui m'avait frappée également, c'était surtout les collègues, les compères qui venaient d'Orient ou de Moyen-Orient. En fait, leur récit était très, très poétique. Donc, c'était vraiment très, très frappant. J'étais vraiment très étonnée et je trouvais ça vraiment très beau. Parfois, la chose qui était un peu difficile, c'est que qu'en étranger, on écrit en français. D'une certaine manière, on garde encore l'empreinte de notre propre langue maternelle. Et justement, ça fait comme si c'était un texte traduit, même s'il n'était pas vraiment. Donc, effectivement, on traduit nos pensées. Peut-être même si on pense en français, on traduit quand même un peu de notre âme. Voilà. C'est peut-être naturel, mais ce n'est pas ça qu'on recherche. Donc, en fait, on recherche une certaine perfection pour s'exprimer et surtout aussi une précision. C'était ça, en fait, mon but à moi. Donc, tout ce que j'ai écrit jusqu'alors, bien sûr, ça repose gentiment dans mes boîtes. Donc, effectivement, je trouve, je le pense, les textes bruts que je compte travailler un jour. Donc, il faut les habiller. Donc, je me disais justement, Je réfléchis sur ce que je vous dirais dans le train ce matin. Je me disais, bon, c'est comme le texte qui court en jogging, en fait, qu'il n'est pas encore habillé. Donc, il vit, il bouge, mais bon, il attend que je change un jour X, en fait, le jour de la compétition, où j'oserais pas peut-être le présenter à quelqu'un. Voilà. Merci.
Alors, Denise, toi, tu faisais partie de la deuxième session, c'est ça?
Oui. En fait, quand j'y pense aujourd'hui, mes attentes, c'était pas si claires que ça. Moi, en arrivant aux ateliers, j'avoue que je me disais un peu, OK, Claire est écrivaine. Elle a sûrement des contacts à me filer. Non, mais c'était sérieux. C'était sérieux. Moi, je me disais... parce que j'essayais toujours d'écrire depuis longtemps, mais je ne finissais jamais. Mais je me dis...
Je t'ai dit qu'il fallait finir d'abord.
Oui. Donc, je me suis dit, oui, donc peut-être qu'elle me donnera des astuces et tout ça. Et en fait, j'ai été un peu déçue par ça. Mais par contre, oui, ça a été tout de suite plus engageant que j'imaginais vraiment. Parce que moi, ma difficulté était contraire, était... c'est que dans mon groupe, on était... je connaissais au moins 3 personnes, donc 3 collègues de la BULAC, et c'était dur de me dévoiler devant eux par mes textes. Donc du coup, le premier jour, c'était... je sais pas.
Enfin, après, il fallait pas beaucoup insister pour te faire lire tes textes.
Oui, c'est ça le paradoxe en même temps, parce qu'il y a une difficulté, il y a une gêne, et en même temps, il y a une envie de partager avec les autres. Et je pense que l'envie l'a emporté sur la gêne. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Ce qui a été très touchant pour moi et très enrichant pour moi aussi, c'est on a fait un exercice, il fallait écrire à la suite des autres. Et ça, pour une première fois, ça me forçait à être dans un autre personnage que mon personnage, toujours centré sur le jeu et tout. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois où j'écrivais en réfléchissant autrement, en fait, un peu ça. Et quoi d'autre? Après, évidemment, quand on sort de ça, on se dit, mais on écrira tout le temps. Mais j'avoue, je disais à Claire tout à l'heure que j'ai pas beaucoup écrit depuis. Mais peut-être que pendant ce temps, ça mûrit, et que je reviendrai pour de meilleures raisons à l'écriture. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, donc trois exemples, en fait, d'impressions, d'émotions, de réflexions qu'a laissé le passage de Claire en résidence à la BULAC. Et donc, comme il y a d'autres participants aux ateliers d'écriture dans le public, on pourra continuer à échanger tout à l'heure sur ces questions, si vous le voulez bien. Mais venons-en donc au roman qui est maintenant terminé. Donc... l'histoire donc naturelle de l'oubli. Je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un texte qui mérite véritablement d'être découvert. Juste rapidement pour vous situer l'intrigue et mieux comprendre notre débat et la lecture. Donc on peut dire qu'il s'agit de 2 personnages qui prennent tour à tour la parole jusqu'à la rencontre. Donc le premier, Audradec, soignant dans une ménagerie, qui a perdu la mémoire dans un grave accident et se passionne pour les renards corsac. Et Suzanne, bibliothécaire solitaire et obsessionnelle, hein, comme ne sont pas tous les bibliothécaires.
J'ai pas dit ça.
A souffert d'un traumatisme récent et refuse de se souvenir. Donc, dans 2 univers clos, la ménagerie, lieu de conservation et de découverte des espèces, hein, et la bibliothèque, lieu de conservation et de découverte des savoirs. Et donc, ces 2 portraits croisés, ces 2 personnages en quête d'un passé disparu de leur mémoire. Donc, c'est clair encore dans ce deuxième texte très personnel. Vous traitez à nouveau le thème de l'oubli qui était déjà présent dans votre premier roman. Rideau de verre. Et donc, Clotilde rappelait tout à l'heure les propos de Claire Moirand. Est-ce que vous vous étiez échappé de ce premier roman? Et comment s'est fait le passage de ce premier roman vers le deuxième, quand même travaillant les mêmes thèmes?
Il y a eu un très long passage, et entre les deux, j'ai écrit d'autres livres, donc je me suis jamais dit qu'est-ce que je vais faire après Rideau de verre, et je vais écrire Histoire naturelle. Ça s'est pas du tout... Ça s'est pas du tout traduit ainsi. J'étais totalement concentrée sur les livres que j'ai écrits entre les deux, que ce soit les livres pour enfants ou le livre sur la musique. Donc c'est pas un passage, c'est plus une continuité. Je me suis pas du tout dit que je voulais de nouveau retravailler sur l'oubli après Rideau de verre. Après, il y a des questionnements qui, je pense, sont dans chacun de mes livres, même dans les livres pour enfants. Après, je trouve un moyen différent de les travailler et de les explorer. Donc, oui, il y a celui de la mémoire et l'oubli. Avec là, une perspective un peu différente, c'est-à-dire que l'oubli est accidentel dans le livre. Odradek, lui, il a perdu une partie de ses souvenirs suite à un coma. Suzanne, elle est plus dans un déni suite à un choc émotionnel. Mais l'oubli est surtout un moyen pour eux de découvrir de nouvelles opportunités et une nouvelle façon d'envisager l'existence. Donc, ils sont plutôt dans un refus de se souvenir, de se déprendre, une envie de se déprendre de leur passé et de se construire une existence nouvelle qui leur correspond mieux, quitte à balayer leur famille, leurs proches, leur passé. Donc il y a une création et une recherche d'une existence plus libre.
Et donc justement, Clotilde rappelait tout à l'heure les propos d'Arnaud Catherine à propos de ce documenté cette documentation qui contredit le désir à la lecture du roman.
Je suis pas d'accord.
Voilà, on a le sentiment que vous êtes beaucoup documenté. On apprend beaucoup sur les renards corsaques, mais pas seulement. Et donc, peut-être dans les collections de la bibliothèque ou en dialogue avec l'équipe des soigneurs de la ménagerie du Jardin des Plantes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette documentation et votre rapport?
Je me suis documentée, j'ai beaucoup observé, j'ai questionné, que ce soit les gens de la bibliothèque, le personnel. J'ai beaucoup observé les lecteurs. À la ménagerie du Jardin des Plantes, je suis allée interroger le chef soigneur et son équipe de soigneurs. Je les ai observés dans leur travail. J'ai fait des recherches sur leur travail. J'ai lu effectivement des ouvrages sur la Mongolie, sur les paysages mongols, sur les renards corsaques qui viennent de Mongolie. La bibliothèque, c'est pareil. J'ai lu tout un tas d'ouvrages. Le but était de ne pas dire n'importe quoi sur les choses qui sont réelles et qui sont les piliers du livre. Donc oui, je me suis beaucoup documentée et ça n'a pas du tout arrêté mon désir. Bien au contraire, plus je me documentais et plus j'avais d'autres idées. La seule difficulté, en tout cas, qui était peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps ici, c'était de me défaire de toutes ces notes que j'avais prises, de toutes ces anecdotes que j'avais récoltées. Et d'ailleurs, enfin, quand j'ai rendu la première version du texte, il y en avait vraiment beaucoup trop. Mon éditeur m'a dit, là, il faut alléger à ce niveau-là et essayer de te défaire et de prendre du recul par rapport à cette résidence et par rapport à la bibliothèque. Je pense qu'inconsciemment, enfin, j'avais vraiment envie d'essayer de rendre compte de tout ce que j'avais observé, sauf que dans le cadre même du livre, ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'était un petit peu pareil pour le personnage de soigneur.
Justement, pendant la résidence, vous aviez évoqué votre texte et vous parliez lors de l'entrelacement de voix de quatre personnages. Il y avait Suzanne.
J'en ai tué deux.
Voilà. Odradek, mais il y avait aussi Norbert, vêtu d'un pull à col roulé, qui passe ses journées à la bibliothèque, qui relit le même ouvrage, commence par la fin et brûle le soir les notes qu'il a prises dans la journée. Et Muriel, la fille de Suzanne, qui venait s'asseoir tous les jeudis sur les marches de l'entrée de la bibliothèque et qui ne disait jamais au gardien ce qu'elle attendait. Donc, vous avez tué ces deux personnages.
Alors, Muriel est toujours là, oui. Mais elle ne prend plus la parole de la même manière. Norbert était censé être une sorte de double d'Odradek. Enfin, bon, ça, je m'en suis rendu compte sur la longueur et aussi en faisant lire à mon éditeur la première version, c'est que les voix d'Odradek et Suzanne étaient bien plus fortes. Qu'il y avait un déséquilibre de ce fait dans tout le roman, ce qui était quand même un petit peu embêtant. Norbert était à peu près inutile, donc lui, je l'ai assez vite gommé. En revanche, Muriel est quand même un personnage assez essentiel. C'est la fille de Suzanne dans le livre. Mais elle ne pouvait pas absolument prendre autant la parole que Suzanne, puisque Suzanne fait tout pour l'écarter de son existence. Donc, j'essayais de la faire parler, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai cherché un autre moyen, et ce moyen, ça a été le fait que Suzanne parle d'elle et la fasse parler dans son journal d'adolescente qu'elle lit et dont elle cite des passages dans le livre.
Alors justement, Odradek, c'est quand même un prénom très curieux. Donc il y a des origines tchèques qui se passionnent pour la Mongolie. Donc on voit que vous savez bien, voilà. On a été imprégné des collections non occidentales de la bibliothèque. Et donc vous citez en fait en exergue de votre ouvrage une phrase de Walter Benjamin à propos du souci du père de famille, donc une nouvelle inachevée de Franz Kafka. Odradek est la forme que prennent les choses tombées dans l'oubli. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de la façon dont vous avez conçu ce personnage?
Déjà, j'ai choisi son prénom en lisant la nouvelle de Kafka. Enfin, je trouvais que ça lui correspondait parfaitement, cet être un peu fou qui lui-même ne sait pas bien qui est totalement indéterminé, qui a oublié plein de choses, mais qui n'a pas du tout envie de se ressouvenir, qui a plutôt envie de se créer lui-même. Alors, il faut savoir que dans la nouvelle de Kafka, on ne sait même pas si Odradek est une personne. C'est un mot qu'il utilise, qui est un peu indéfini. Au départ, on pense que c'est une personne, mais petit à petit, on a plutôt l'impression que c'est un souvenir. À un moment, on pense que c'est un objet, alors que la nouvelle est très courte. Si bien qu'il y a eu des tas de textes sur cette nouvelle pour essayer de déterminer ce qu'est Odradek. Donc, c'est pour ça que je trouve que la définition de Benjamin de dire que c'est Odradek nous poursuit tout le temps, est là tout le temps, et c'est cette forme que voilà que prennent les choses tombées dans l'oubli, mais la forme est toujours là et nous poursuit. Je trouve que c'est très fidèle à la nouvelle de Kafka. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont essayé de s'emparer d'Odradek. Et alors là, ça donne lieu à de drôles de dessins. Enfin, la plupart du temps, Odradek est représenté par une bobine de fil qui descend des escaliers. Donc, enfin, voilà, Odradek, ça pouvait être plein de choses. Et surtout, Odradek explique bien que sa mère était tchèque. Et en plus, ça correspondait à l'endroit d'où je voulais qu'il vienne.
Alors, donc, le récit, donc vous donnez successivement la parole à vos deux personnages, chacun avec un style qui lui est propre. Et donc, ils prennent donc la parole les uns après les autres, chapitre par chapitre. Le style est vif et précis. Et en fait, j'ai l'impression que vous découpez le temps un peu comme un scalpel et avec une alternance de plus en plus rapide entre les voix qui entraîne et captive le lecteur. Je vous avoue qu'on est plusieurs à l'avoir lu à la Bulac et avoir été captivé et à l'avoir lu d'une traite d'un bout à la fin. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail d'écriture que vous avez fait sur chacune des voix et le rythme que vous leur avez donné?
C'était vraiment le plus difficile de faire en sorte que les voix soient différentes. Pour Odradek, ça a été assez immédiat et assez simple, notamment parce qu'il sortait du coma et qu'il avait un langage beaucoup plus immédiat, plus sauvage, plus instinctif, plus répétitif que le langage de Suzanne. J'ai mis plus de temps à trouver la voix de Suzanne. J'écrivais quand même ce qu'elle racontait, mais j'ai mis pas mal de temps à trouver vraiment sa voix. Pour la trouver, je crois qu'il a fallu que je le mette dans un état un peu désagréable, c'est-à-dire dans son état de détresse et de négation absolue. Et elle a un langage plus soignée, plus liée, elle fait des phrases plus longues. Vraiment, le travail était de faire en sorte qu'on puisse reconnaître tout de suite qui parle, que l'un n'est absolument pas les tics de langage de l'autre. Donc ça, à la relecture, j'ai beaucoup... Enfin, je me disais, ah ben tiens, ça, Suzanne dit ça, en fait. Elle devrait pas employer ce mot. Ce mot, c'est pour Dradek et c'est pas pour elle. Donc ça a été vraiment le plus difficile. Et quant à l'avancée des choses, Et ça, c'est vraiment grâce à mon éditeur, je pense, que j'ai réussi et que je l'ai trouvé. C'est que les choses avancent vraiment très lentement au départ. On sait pas du tout quel est le lien entre les deux personnages. D'ailleurs, est-ce qu'un lien va pouvoir se faire? On en sait très peu sur les deux personnages. Tout se découvre petit à petit. Mais à partir du moment où ils se rencontrent, là, les choses se mettent en place et vont beaucoup plus vite, ce qui fait que les passages eux-mêmes sont plus courts et que les choses s'enchassent plus rapidement.
Alors justement, je vous propose d'entendre ces deux voix qui vont s'incarner. Donc Claire va parler pour Suzanne et Ismaël pour Audradec.
Audradec. Un matin, je suis sorti de l'hôpital. On m'a reconduit chez moi, je n'ai rien reconnu. C'était un sentiment d'une douce étrangeté. On m'a reconduit chez moi, je n'ai pas aimé le mobilier. Je me suis regardé dans le miroir. L'infirmière m'avait rasé la veille. Deux coupures au menton. Je me reconnais, je trouve que ce corps et ce visage ne me vont pas. Je me découvre humain. Tout est là, tout fonctionne. Rien n'est paralysé, rien sauf. Sauf votre mémoire, a affirmé le docteur Le Foll. Ça a commencé dans une chambre d'hôpital grisâtre. On peut dire que ça a commencé là, cette nouvelle vie. Je me suis réveillé, je n'avais plus aucun souvenir, ni de la veille, ni des mois précédents. J'étais vide, silencieux. Désert, dépeuplé, inhabité. Je m'allonge sur le lit, en chien de fusil, sur le ventre, sur le côté, sur le dos. Il n'est pas confortable. Je m'enfonce dans le matelas à mollo. Je coule, englouti par une force inconnue. Je me vois courir dans un champ aride, léger et élégant. Je m'arrête pour cueillir des herbes sèches que je hume longtemps. Une odeur, cette odeur pestilentielle que je connais, l'odeur, l'éther. Je suis tout petit, je ne suis pas un homme. Je suis un point perdu, un germe, pollen dilué dans cet univers puant. Je me lève brusquement, m'enfuis dans la salle de bain, je vomis dans le lavabo. Mes mains sont engourdies, je me regarde dans la glace, c'est flou. Coma, j'en ai vécu des choses grâce à toi. Mais au réveil, elles se sont estompées. J'ai chaviré de l'autre côté, derrière. De l'autre côté, derrière. De l'autre côté ou derrière. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Rien, je pense. Il n'y avait rien. Il n'y a plus rien. Rien qui encombre. Ça ne manque pas vraiment. Je ne sais pas ce qui me manque, ni ce qui devrait me manquer.
Suzanne. Ce matin, je suis au Red Jardin en service public. Je repère un lecteur avec une brique de lait d'un litre ouverte sur un coin de table. Cela m'étonne un peu car les étudiants viennent plutôt à la bibliothèque avec de l'eau, du coca ou du jus d'orange. Le blanc de la brique se fond parfaitement dans la blancheur immaculée des tables de la salle de lecture. Malheureusement, le lait ne fait pas partie des boissons autorisées. Je demande donc au lecteur de remettre la brique dans son sac. La seule chose qui me plaît dans cette course effrénée aux infractions liquides, c'est la beauté des couleurs des contenants et contenus sur les tables blanches de la bibliothèque. Les boissons devenant les seuls objets décoratifs de notre espace ergonomique neutre. Les deux jeunes filles qui me font face discutent. La moins jolie chuchote qu'elle veut quitter son travail à la fin du mois. Sa camarade essaie de l'en dissuader. Je n'arrive pas à entendre la suite de son argumentation. C'est souvent ainsi, je perçois le début d'une conversation, Je tends l'oreille, je me concentre, perception télépathique, quelques bribes de discours me parviennent, puis ces bribes se transforment en sons diffus, en bourdonnements, et enfin je n'entends plus rien. Les mots des lecteurs se volatilisent dans le silence bienveillant de la salle de lecture. Je me glisse dans cette alternance de paroles et de silence, ce repli. Respectueuse de leurs pensées, je finis par m'absenter de leurs échanges et préoccupations, les laissant tout à leur affaire.
3 jours par semaine, je retourne à mon travail. C'est ce qu'on appelle un mi-temps thérapeutique. 3 jours par semaine, je longe l'avenue de la Résistance avant d'arriver à la ménagerie. Avant, c'était 6 jours. Avant, c'était comment ? J'ai oublié certains gestes quotidiens. Pourtant, je reprends peu à peu le cours de l'existence de Tradek. Son travail, sa vie privée, là où je les avais laissés. Aussi vide et absent qu'un être humain puisse être. Je signe les papiers de l'assurance maladie et un avenant de mon contrat. Je découvre que je suis employé par cet établissement depuis 16 ans. 6 jours par semaine, pendant 16 ans, j'ai été soigneur dans un grand jardin animalier. Alors je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pour compter jusqu'à 6, on a besoin de 2 mains. Devrais-je compter en semaine ? EMI, expérience de mort imminente. Je tire sur la pipe que j'ai trouvée dans un tiroir de la table de nuit. Visiblement, je sais fumer. Était-ce une de mes habitudes, une addiction, juste un passe-temps, un plaisir occasionnel ? Je tire plusieurs fois. Je n'en éprouve aucun plaisir. Je jette tabac et pipe à la poubelle. Voilà une chose à raconter à mon psy. Je commence à croire qu'il a raison. Sur le chemin qui mène à la reconstruction de soi, il n'y a pas de petit événement. Le moindre détail est utile, notable. Il faut être à l'affût. Preuve écrite, photo, témoignage. À la ménagerie, tout me paraît familier. Le docteur Le Foll me demande de lui décrire cette impression de familiarité, de l'associer à des éléments concrets, des choses vues, des personnes rencontrées. Parce qu'il attend moi.
Le responsable de l'action culturelle nous raconte qu'une femme s'est levée et s'est mise à lécher le sol, la moquette du couloir qui mène à la cafétéria. La sécurité a dû intervenir pour la faire sortir. Elle s'est débattue, se plaignant du travail bâclé de nos services de nettoyage. Tout le monde réagit à son histoire, se moque. Je reste en retrait, impassible, envahie par un désintérêt là. Je tripote et fais rouler dans ma main le morceau de mur qui trône sur mon bureau entre le pot à crayon et le téléphone. La journée a été difficile. Les lecteurs ont passé leur temps à râler. Mes collègues dissipés riaient bêtement dans les couloirs. La machine à café était en panne. J'étais aux inscriptions sur un ordinateur collectif. J'avais oublié mes lingettes nettoyantes. Je déteste utiliser un clavier non désinfecté. Je rentre chez moi en bus. À cette heure-ci, on est souvent ralenti par les embouteillages en périphérie de la ville. Je pose les clés sur le buffet dans l'entrée. Le parquet craque et geint, fidèle aux plaintes de notre bâtisse et de son histoire amochée. Dans notre vieille maison, il y a toujours eu d'étranges sons. Vibrations, crépitements, déclics et sifflements inexpliqués. Je ne me suis jamais vraiment habituée à ce ronron sourd et continu. Enfant, j'en avais peur, le fuyais. Adulte, je tends l'oreille, lui porte beaucoup d'attention. Je me suis familiarisée avec ses battements, je me déplace en rythme, de pièce, en suivant ses ondulations. Je cale mon repos sur ses trêves, mon sommeil sur le sien. Je n'ai jamais réussi à ne plus l'entendre du tout. Au contraire, je perçois plus précisément ses mouvements, ses impatiences. Son parcours cesse parfois brusquement, sans me laisser le temps de me préparer au silence. Exactement comme le décès inattendu de Léonard a détruit la marche de nos existences. Le fil se rompt, reste l'absence, le manque, le vide. Nos routes s'arrêtent soudain. C'est un dimanche, la route s'arrête soudain quand une voiture se prend un mur. De temps en temps, je passe tâter le mur, je l'effleure à peine, n'ose pas le toucher franchement. Reste quelques traces de sang séché que je gratte avec une petite pince à épiler pour recueillir les cellules de mon époux qui demeuraient incorporées dans le ciment. Je les conserve dans un petit bocal, Une odeur de vinaigre et de cornichons persiste quand je l'ouvre, et une odeur d'emmuré.
Hier, devant le domaine des renards, je me suis évanoui. Ça m'arrive de temps en temps. Je vois des papillons et je vacille. Montagne sacrée, gazelle saïga, arbuste chétif. Je m'évanouis. Je vois encore. Mélèze, bouleau, edelweiss. Oui, on peut dire que ce sont des bribes de souvenirs, si vous voulez, de petits événements. Docteur, je peux vous poser une question? C'est votre vrai nom, le Paul? C'est pas, comment dire, vous voyez, c'est pas très rassurant.
Au moment de la fermeture à 22h, il y a toujours des lecteurs qui n'apprécient pas que nous les interrompions et rechignent à partir. Nous avons l'impression, littéralement, de les jeter dehors. Ils ne consentent à se mettre en mouvement qu'après 2 ou 3 injonctions de notre part. Ils se lèvent au ralenti, rangent leurs crayons un par un dans leur trousse, se déplacent lentement jusqu'à la poubelle pour se débarrasser d'un emballage de gâteau qu'ils auraient certainement laissé sur la table s'ils ne s'étaient pas sentis bousculés. S'ils sont 2 ou 3, ils continuent de discuter en affectant de n'avoir rien entendu et finissent par regagner la sortie en marchant très nonchalamment alors que nous nous activons pour ranger les chaises et éteindre les veilleuses au-dessus de leur table. C'est le moment qu'ils choisissent pour lancer les multiples mises à jour de leur ordinateur. Les lecteurs font partie de cette catégorie de personnes qui n'aiment pas être dérangées. Le soir, tandis que chaque établissement fait verser ses notices dans la base locale, je m'attarde dans les salles de lecture. Je passe lentement ma main sur les tranches des livres dans les rayonnages. Je prête l'oreille à leur petite musique. Une mélodie dense, bienveillante, riche d'expressions et de styles. Je prends la mesure de l'endroit dans lequel je travaille. L'enceinte de la bibliothèque est une ville qui s'éveille et se meut.
3 jours par semaine, je passe devant la bibliothèque. Et je longe l'avenue de la Résistance pour arriver à la ménagerie. La bibliothèque est un repère. Un grand immeuble en briques qui me sert d'orientation. J'y suis entré pour la première fois ce matin. Mon passé ne me manque pas, mais je veux savoir. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi les animaux? Pourquoi travailler, vivre avec eux? S'occuper d'eux? Pourquoi eux? La nuit, j'ai de la fièvre. Je perçois des cris, des plaintes. Je connais cette voix, déformée par la douleur, elle aussi. Un cri comme celui-là, je n'en ai jamais entendu. Parfois, ce sont des bourdonnements, des vrombissements, des acouphènes. L'autorhino-laryngologiste dit que je n'ai rien, que tout va bien. Le chef soigneur m'autorise sous sa surveillance et avec l'accord du psychiatre à aider mes anciens collègues soigneurs. Il veut que je réapprenne ce qui constituait mon ancien travail. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? J'enlève mes draps, ils sont trempés. Je les jette dans un sac plastique. Le matelas est troué par endroits, je le porte jusque dans le couloir. Mes membres tremblent sous mon poids, je n'en veux plus. Se camoufler pour mieux chasser. Les animaux de la ménagerie ne sont plus des animaux sauvages, c'est compliqué. Ils ne peuvent plus vivre dehors. Ici, je me sens chez moi. Ici, j'ai 2000 animaux de compagnie. Je dois protéger mon territoire. Plutôt sage. C'est l'enfant que j'étais. Plutôt sage. Petit, précis, pas téméraire et trop discret. Plutôt sage et élevé par ma mère. Ma mère portait un prénom tchèque ordinaire. Elle s'appelait Clara. On me dit qu'elle est morte il y a 2 ans, que j'étais très triste. Que j'étais dans une peine si profonde qu'on pensait que je n'allais jamais m'en remettre. Je n'en rappelle pas. Que suis-je supposé faire de ces éléments étrangers? 3 jours par semaine, je vais à la bibliothèque, anonyme, bourru, inquiet, c'est le lecteur que je suis. J'étudie, je prends des notes, j'étudie, je recopie, j'en apprends davantage sur ma nature première. J'aime bien les nocturnes du mardi, moins de monde, moins de bruit, moins de tout. Il est plus facile de se faufiler comme un animal entre les étagères et passer inaperçu. Rayon Europe balkanique, centrale et orientale. Dans les livres sur mon nom, je ne trouve rien. Mon Dradek n'a aucune signification. Rien ne permet d'établir son sens. Pas de fait précis, mais une impression unique. Mon Dradek. peut-être partie de son travail, il me détaille. Pendant que je parle, il me fixe, m'examine. Il m'a gentiment fait remarquer que les rougeurs de mes cicatrices étaient estompées. Je devrais en être content. Il m'a également félicité pour cette longue barbe broussailleuse que j'ai laissée pousser. Je lui ai fait un clin d'œil. Je me suis extrait du fauteuil. Je me suis penché vers lui par-dessus son bureau. Et j'ai chuchoté une confidence à son oreille attentive. Je ne me rase plus, docteur. Je ne me raserai plus jamais. Les lois de la nature doivent s'imposer. Sélection naturelle en milieu hostile. Il faut les laisser triompher, régner sur notre monde animal.
J'accroche mon arbre généalogique dans la cuisine. Je donne un nom à de petites boulettes de papier représentant mes défunts et les fais glisser de branche en branche avant de les lâcher. Je les regarde amusés tomber sur le sol et rester là, à terre, confettis immobiles, impuissants. J'ai commencé à constituer ce portrait de famille végétale il y a quelques années, à la mort de mon oncle. Ce qui m'intéresse dans ce tableau originaire, ce n'est pas la famille, ses générations, son essor ou sa dispersion. C'est la mort, les formes qu'elle prend, leurs correspondances, leurs ententes. Tragédie en cascade, aucun meurtre consanguin. Mais je suis frappée par une propension atavique au suicide. Les résonances, l'agitation souterraine de la maison ancienne dont j'ai hérité, les voix caverneuses qui la hantent, c'est la mort mécontente, elle rôde. Insatisfaite du sort choisi, issue médiocre et lacunaire. Mon mari apparaît comme une branche estropiée sous laquelle je me recroqueville, échec d'une lignée qui s'enraye et se fige. Léonard, nous n'avons rien donné, toi et moi. Ta fille ne trouve place nulle part, reliée au dernier mort d'une famille par un rien, une affection pour moi. Elle me considère comme sa mère, n'ayant pas connu la vraie, la biologique. Elle n'entre pas dans le cadre génétique. Dans l'arbre ancestral que je compose, l'ADN et accessoirement le mariage créent la famille. Dans l'éventail des possibilités de suicide, la corde, l'overdose médicamenteuse, la défenestration, solution majoritaire, et ton idée tordue sans hérédité, l'accident de voiture provoqué, semeur de doute, entremetteur bancal entre l'incident et l'intentionnel, la disparition inexpliquée et l'acte suicidaire. Ce dimanche-là, tu n'es pas rentré. J'avais préparé à manger, j'ai attendu toute la nuit. Tu n'as pas répondu à mes coups de fil. Je suis allée à la police le lendemain, le surlendemain, les jours suivants. J'ai fouillé tes affaires, j'ai consulté ton compte. Les policiers ont entamé des recherches, ils ont interrogé les voisins. Rechercher notre véhicule, drainer le port, ratisser la ville. Toutes ces procédures mises en place dans l'intérêt de la famille. Un samedi matin, la police est venue à la maison. Muriel dormait encore, on avait retrouvé notre voiture et des morceaux de toi, mon Léonard, dedans. La route s'arrête soudain. La route s'arrête soudain quand une voiture se prend un mur. La voiture avait flambé en partie, restait des lambeaux de chair, de vêtements, des résidus de bidons d'essence, carbonisés, et des éclaboussures de sang déjà sèches sur le mur. J'ai dû annoncer à Muriel que son père avait foncé, accéléré tout droit dans le béton. Je n'ai pas su lui expliquer pourquoi.
Les renards corsaires me regardent avec leurs yeux coquins. Je me poste devant eux tous les matins. Quand personne ne surveille, je m'approche de la grille, je passe un doigt. Ils arrivent en courant, sautillant. Ils sont beaux, ils m'apprécient. Si les souvenirs revenaient, à qui en parlerais-je? Plus personne ne me connaît. Dans les ouvrages animaliers, je lis tout ce qui concerne de près ou de loin le règne corsaire. Quand je ne suis pas affairé à mes recherches, j'entends la soufflerie de la climatisation. C'est gênant. Corsac, nom masculin, mot français d'origine russe. En Russie, il y a beaucoup de notices, car beaucoup de collections. Corsac, vieux russe Corsac, renard d'Asie occidentale et centrale. Corsac, zoologie, nom vulgaire et spécifique du chien Corsac, dit aussi renard de Tartarie, et nommé par Buffon, Isatis. porte fièrement son pelage d'hiver. Lui et moi sommes frileux. Sa queue est touffue, elle semble presque aussi longue que son corps. J'aime quand les renards sont ainsi bien fourrés. Pour la première fois, le phoque me déçoit. Il n'y prête aucune attention. Il jette un coup d'œil furtif à la photo, la jette dans sa corbeille à papier et déclare « Nous ne sommes pas là pour parler de renards, corbeaux et autres bêtes. » Ma gorge se serre, je ne dis plus un mot jusqu'à la prochaine séance.
Malgré ma nouvelle tisane, nuit calme et mes deux Stilnox, je n'arrive pas à dormir. Tes griefs se propagent dans ma tête, ne me laissent pas en paix, le plafond de la chambre s'affaisse de jour en jour, menaçant de m'écraser. Le chat amaigri miaule sans discontinuer. C'est toi qui lui donnes à manger d'habitude. Je suis démunie, je ne sais pas comment m'en occuper. Il me regarde méchamment, feule à mon approche, ses poils se hérissent et son dos s'arrondit. Dans le corps de cette bestiole, je l'ai toujours senti, ce tapis, un démon. Ça fait longtemps que tu ne bois plus ton café avant de partir. Je le vide dans l'évier et te sers une tasse de celui que je viens de préparer. Tu ne le boiras pas.
Sur la tombe de ma mère, les fleurs sont fanées. Des fleurs que j'avais achetées et déposées ici avec tout mon chagrin. Je passe la matinée à regarder des photos de famille, pose maladroite et sourire forcé. Je reconnais quelques personnes, les autres non. J'achète un réchaud de randonnée. Docteur, c'est pourtant vrai, je ne ressens rien, je ne connais plus ces gens, c'est difficile à décrire, mais voilà, ça ne me fait rien. Non, je ne suis pas ému. Non, ce n'est pas de la résistance, ni de l'indifférence aimable. Non, je ne crois pas. Non. L'oubli est généralement motivé par un sentiment désagréable, comme ça c'est bien. Pour moi, c'est bien. Cette mémoire engloutie me facilite la vie. Engloutie par qui, par quoi, où, je ne sais pas. Je ne sais plus grand-chose, manifestement. M'évertuer à savoir ne m'intéresse pas. Ça l'a peut-être intéressé avant au Dradec, mais je ne m'en souviens pas. Truffe noire et yeux marrons, les corsacs de notre ménagerie sont issus de deux portées. Ils sont cousins. L'entente a été difficile entre eux au départ, chacun sa loge dans laquelle nous mangeons individuellement. L'un est doré, l'autre plus châtain, l'un est gris, l'autre plus miel. Le dernier est le seul à être nommé par les soigneurs. On l'appelle queue coupée. Il est arrivé ainsi, on ignore pourquoi sa queue coupée. Aucun secteur de la ménagerie ne m'est indifférent. EMI, expérience de mort imminente. Combinaison de médicaments, dépersonnalisation et expérience secondaire, elle atteint le point limite. Thoracine, elle porte plusieurs appellations. Expérience de mort proche, des neuroles. Expérience d'effroi, valium. Expérience hors du corps, morphine. Expérience de mort approchée, expérience noétique. Je suis sorti de ma chair. Je n'en ai pas été stupéfait. Le retour est inconfortable. J'ai des souvenirs précis de toi, coma. Tu n'es ni rêve, ni hallucination. Je dors mal. Les steppes, encore à l'état primitif, constituent un territoire privilégié pour les moustiques voraces. J'avance à flanc de montagne. Je glisse sur des pierres moites. Quand commence-t-on à habiter, à faire sien un appartement? Combinaison, récupération du planning, trousseau de clés et de talkie-walkie, 15 minutes d'observation. Observation de l'état de santé de l'animal, de son comportement. On appelle ça faire le tour du propriétaire dans le jargon zoologique. Réparations diverses, grillage, fuite d'eau, éclairage, chauffage. Si le talkie-walkie d'un soigneur reste immobile, renversé de plus de quelques secondes, sans réponse, ni signe du soigneur auquel il appartient, une alarme nous avertit. Il faut agir tout de suite.
Mes collègues ont repéré un individu étrange au rayon zoologie. Ils me le décrivent comme un homme sale, avec une barbe fournie et des cheveux gras. Ses poches sont remplies de papier journal. À chacun de ses pas, les froissements de ses journaux importunent les chercheurs avoisinants. À la pause déjeuner, je vais à la poste chercher un colis qui m'attend. Le guichetier me tend un grand carton en disant « Ça pèse pas lourd, madame ». L'expéditeur n'est indiqué ni sur le bon ni sur le carton. J'attends d'être de retour au bureau pour l'ouvrir. J'en sors un autocollant en forme d'oiseau. Il a le bec blanc, le dos vert, le ventre jaune, la tête noire et la poitrine mauve. Il est très coloré. Au dos, je lis. C'est un diamant de Gould. J'aimerais bien voler comme lui. J'en veux un, STP. Je reconnais l'écriture de Muriel. Elle nous a tannés pendant des mois pour avoir une saleté d'oiseau. Avec son père, ils allaient souvent nourrir les piaves du jardin public le week-end. Ils rentraient contents, tout fiers d'avoir lancé des miettes de pain dur aux vieux pigeons sales et malades qui se rengorgent bêtement autour du bassin. Bizarrement, cette passion les liait de manière assez forte. Parfois, ils partaient camper tous les deux pour observer les mouvements migratoires. Muriel tenait un journal de la nature. Léonard alimentait un album de photos des volatiles observés. Il a fini par lui promettre que nous lui offririons un diamant de Gould pour son anniversaire. On ne devrait jamais faire de promesses avant de prendre la route. La route s'arrête soudain. La route s'arrête soudain quand la voiture fonce dans un mur et s'écrase. C'est parce que tu as bousillé notre voiture que je suis obligée de prendre le bus. J'ai toujours eu une répugnance à prendre les transports en commun, à être serrée tout contre des inconnus, à partager leurs odeurs de sudation, leurs germes malsains, leurs haleines nauséabondes. Pour appuyer sur le bouton rouge qui indique au chauffeur le prochain arrêt souhaité, j'enfile des gants en latex stérile que je jette après chaque utilisation.
Il s'agit de retarder l'échéance, lutter contre la souffrance. Avant, on opérait les animaux sans antalgique. Avant, on ne pensait pas aux conséquences physiologiques de la douleur. Évidemment, la douleur est différente selon les espèces. Chaque animal réagit selon sa propre expérience, son passé. Son seuil de tolérance est une réponse, une réaction individuelle. Les animaux qui ont un cortex frontal ont des fonctions cognitives plus importantes. Ils souffrent davantage. Retarder l'échéance. S'il n'y a plus que la souffrance, on arrête. On tisse des liens d'amitié avec les animaux, c'est inévitable. Mais il ne faut pas trop se lier à eux. On est sans cesse conduit à les voir mourir. Retarder cette échéance. Le vent se lève. Leurs oreilles pointues mutent, fières et droites. Les renards arrivent en courant quand j'approche. Ils font pareil avec les soigneurs. Mais avec moi, c'est plus évident, plus marqué. Ils se plantent dans la terre comme des arbres solides. Ils me regardent dans les yeux. Ils me transpercent. C'est dur de se séparer des animaux qu'on apprécie. Dans l'enclos des vautours, on entre avec des boucliers et des filets. Ils attendent qu'on ait le dos tourné pour nous charger dans la figure et sur moi.
En me relevant, je vois l'homme dont m'ont parlé les collègues l'autre jour. Une poignée de journaux froissés dépasse de sa poche arrière. Il se déplace lentement, se plante devant une fenêtre et fait mine de toucher le sapin à travers la vitre. Son allure me fait vaguement penser à quelqu'un. Ses cheveux en bataille, huileux, tombent sur des épaules fermes. Il se détourne, profil maladroit et disgracieux. Se promène d'étagère en étagère, ses yeux au travers, il inspecte. On pourrait penser qu'il espionne les autres lecteurs, mais ce n'est pas ça. J'ai l'habitude des voyeurs. Il n'en est pas un. De retour à mon poste, je l'examine. L'homme aux journaux froissés ne me regarde pas. Il prend des notes sur des feuilles volantes. Ses chaussures sont couvertes de boue. Son pull à col roulé noir est troué à l'encolure. Il se lève, s'engouffre dans une allée du rayon tchèque, en ressort rapidement deux ouvrages en main. De nouveau assis, il respire les volumes avant de les ouvrir par la fin. Il se frotte les mains comme pour se réchauffer. La mezzanine est l'étage le plus froid. Quand j'y passe plusieurs heures immobile, je m'enroule dans une étole en mohair noir. Je tourne la tête pour répondre aux questions d'un lecteur. J'ai peur que l'homme n'en profite pour disparaître, consumé par ma propre imagination. Il est toujours là, l'air sauvage, menacé, en fuite.
J'entre dans la bibliothèque. Je marche à vive allure vers le fond de la salle de lecture. Je tourne sur moi-même et m'installe. Ça sent fort, cette odeur désagréable des endroits où il y a beaucoup d'humains.
Merci.
Je trouve que... On a décidé de lire le début en coupant quand même des passages, mais comme les choses se placent petit à petit, c'était pour pas dévoiler la fin.
Merci.
Et vous avez eu combien de temps pour écrire ?
Alors, combien de temps, en résidence, presque un an. Mais j'ai plutôt commencé à écrire à la fin, en fait. Pendant toute la résidence, c'était plus de l'observation, des prises de notes. J'ai aussi passé du temps à la ménagerie à ce moment-là. Mais je pense que j'ai vraiment commencé à écrire les deux derniers mois. Et puis après, j'ai vraiment fini le texte. Enfin, je pense que c'était, je l'ai rendu en avril 2014. Voilà. La résidence. Alors, j'avais un bureau, donc je pouvais venir quand je voulais. Mais en fait, j'ai passé très peu de temps dans ce bureau parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'observer les lecteurs et d'être dans les salles de lecture. Après, je pouvais venir quand je voulais, mais je venais pas tous les jours. Ça dépendait vraiment des semaines et après des rencontres aussi qu'on organisait, parce que ça prend aussi un peu de temps. Et après, je prenais des rendez-vous avec ceux qui avaient envie de répondre à mes questions et d'échanger avec moi. Et ça, bon, je les voyais ou autour d'un café, cafétéria ou dans leur bureau.
Je suis simplement curieuse parce que la rencontre entre l'homme et l'animal, et dans ce cas-là, c'était en fait une découverte pour toi, ou tu connaissais déjà cette relation entre l'homme et...
Moi, je ne l'avais jamais poussé jusque-là. Puisque le personnage du livre, sans tout dévoiler, va aller devenir une animal et essayer de se métamorphoser et d'adopter la démarche de l'animal, le manque d'hygiène de l'animal. Audradec, pas la bibliothécaire. Désolée. Mais non, déjà, j'avais jamais travaillé là-dessus pour aucun livre, mais ça m'a toujours intéressée. Mais
c'est très intéressant comment tu en parles. C'est très intéressant comment tu en parles. Très attentif. C'est pour ça que
je pose cette question-là. Il y a un animal dans le deuxième regard. Il y a Mamuto.
Oui. Il y a un petit Mamuto dans un de mes livres pour enfants, c'est vrai. Il y a des animaux, mais c'est pas la même chose qu'être un homme et souhaiter devenir un animal. Après, donc ce désir qui naît en lui n'est pas seulement lié à son coma ou à son travail avec les animaux. Ça vient aussi de cette réaction quand il sort du coma, où tout le monde lui dit ce qu'il doit penser, ce qu'il doit aimer, tout le monde lui dit ce qu'il est, et lui se sent étranger à toute cette description qu'on lui fait de lui, et tout le monde humain, le monde social lui paraît très contraignant. Et donc le fait de se rapprocher de l'animal et de où tout est plus instinctif et immédiat vient de là aussi, de ce rejet du monde social et de cette envie de liberté.
Parce que justement, on parlait tout à l'heure de Kafka et donc de l'animal, de métamorphose.
Ouais, je l'ai relu pour l'occasion.
Et justement, est-ce que c'est pour cette raison qu'on va avec à les origines tchèques?
Je sais plus exactement à partir de quel moment je l'ai décidé, mais il fallait que ça corresponde à son prénom que j'ai choisi assez rapidement. Ça me permettait de faire aussi un clin d'œil à Kafka. Et puis, ses recherches allaient porter sur quand même toute cette partie du monde. Donc, ça fait plusieurs raisons. Donc, et par rapport à la nouvelle de Kafka, par rapport à ce que ça pouvait signifier, et aussi parce que effectivement, od radix en latin, ça veut dire le sans racine, et enfin tout converger pour que je lui donne ce prénom.
Est-ce
Est-ce que... Elle dit que je vais faire. Je ne vois pas comment réussir à installer une relation dans une bibliothèque.
C'est...
Parce qu'on ne parle pas dans une bibliothèque. Et comment tu as pu, si c'est le cas, installer quelque chose dans
une bibliothèque? C'est... Je, sans tout dire, ce qui va se passer, c'est que Suzanne va s'intéresser de plus en plus à ce lecteur extrêmement étrange, va commencer à l'observer. Lui, il ne lui porte absolument aucune attention. Enfin, plutôt, il se sent épié et ça l'agace beaucoup. Et elle va aussi le suivre en dehors de la bibliothèque. Je m'arrête là.
Les bibliothèques sont des lieux de rencontre, mais aussi parfois entre bibliothécaires et lecteurs. De grandes histoires d'amour entre bibliothèques et lecteurs.
Oui, alors dans la rencontre, dans la carte blanche sur le premier roman, je me souviens que tu avais parlé de la façon dont tu avais vécu l'après de ton premier roman. Et en fait, tu t'es rendu compte que tu avais été très stressée finalement pendant ce mois. Tu parlais de ton livre, tu étais dans une librairie, tu faisais des lectures, et après coup, tu regrettais un peu de ne pas avoir su apprécier tous ces bons moments. Et donc, là, tu as, je pense, entamé voilà, cette période maintenant que ton livre est sorti, tu as commencé à faire des lectures. Et donc, je voulais savoir comment tu vivais cette. Cette période, voilà, si tu commençais à apprécier. Voilà.
Honnêtement, je trouve que mon livre est sorti le 8 janvier. Le 7 janvier, il y a eu l'attentat à Charlie Hebdo, où quelqu'un que je connaissais est décédé. Donc, je trouvais que c'était vraiment nul de sortir un livre le 8 janvier, et j'ai mis beaucoup de temps avant de me réjouir de la sortie de ce livre. Et j'ai un rapport assez ambigu à ça, c'est-à-dire que je me dis qu'il faut vraiment que je profite de chaque moment de lecture, etc. Notamment parce que cette personne aimait ce livre, mais à chaque fois que je pense à mon livre, je pense à ça. Donc c'est pas si idéal, surtout quand on met 2 ans à écrire un livre et qu'on attend 6 mois sa sortie. On a un petit peu envie d'autre chose, mais on continue les rencontres, les lectures, et voilà.
Et donc, on ne pense pas encore au prochain,
c'est ça ? Ah, si, si. si. J'ai une idée du prochain que j'ai depuis déjà plusieurs mois, une idée assez précise, si, si. Simplement, pour l'instant, je peux absolument pas m'y mettre.
Sur les mêmes thèmes ou...
Non, pas du tout. Pas de bibliothécaire et pas de soigneur. Enfin, la mémoire et la quête d'identité, je pense que ça sera en filigrane, oui.
Eh bien, donc j'espère que cette soirée vous aura donné envie de lire le livre et de découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, Lulac et ses collections. Donc vous pourrez tout savoir, tout apprendre sur le renard corset de roue. Je vous remercie de votre participation. Je remercie particulièrement Claire et Ismaël pour la lecture qui nous a tous donné envie de le lire ou de le relire. Merci à tous et à
la. Et vous pouvez voir le petit renard corsac de Mongolie à la ménagerie du Jardin des Plantes. Il est nourri à 15h, donc c'est le moment où vous pouvez le voir le plus facilement. Voilà, merci d'être venu.